Good Morning Business, le grand débat.
8h35, le grand débat.
Très grand.
On a dit grand.
Ouais, grand débat, c'est bien. Ouais.
Alors, Marc Fiorentino, Emmanuel Le Chypre, on va avoir trois thèmes, effectivement, de réflexion qui sont passionnants. D'abord, le réarmement en Europe, mais pas seulement. Est-ce que c'est ça l'avenir de la croissance économique, Marc?
C'est quand même dingue, hein. C'est-à-dire qu'il y a un an ou deux ans, on n'aurait jamais pu imaginer ça. On était tous en train de discuter de la croissance verte, de la transition écologique. Puis quand on
la marguerite regarde... entre les dents.
Ben oui, exactement.
La fleur au fusil,
c'était Woodstock, quoi. Ouais. Et là, quand on regarde les chiffres, donc je rappelle hein, quand même les dépenses dans l'armement l'année dernière, donc en 2023, record historique. Et si les pays de l'OTAN veulent tenir leur engagement, que va d'ailleurs leur rappeler Donald Trump, il est élu.
Il a dit attention, c'est-à-dire 2%
du PIB, on est tous derrière. Je rappelle que la France est à 1,6% et il y a des pays qui sont très très loin.
L'Espagne, 1,2.
Voilà, 1,2%. C'est-à-dire que si on doit remonter, on parle de milliers de milliards d'investissements avec donc une croissance, il va falloir trouver une couleur, est-ce qu'elle est rouge ou brune, on ne sait pas, mais une croissance qui va être, à mon avis, beaucoup plus importante que la croissance verte. D'ailleurs, l'impact de la guerre en Ukraine sur la croissance américaine est probablement plus forte que l'IRA.
Ah ouais?
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un boom absolument, et ça revient au sujet dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire l'inflation, la résilience de la croissance américaine. Bah, il faut voir qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'un bonus, parce que les gens qui veulent monter leur budget militaire au sein de l'OTAN, bah, très clairement, ils achètent à 85% américains.
Mais alors, du coup, c'est passionnant ce que vous dites, parce qu'il y a une époque où on ne pouvait pas investir dans le militaire, parce que ce n'était pas RSE.
C'est ça qui va être dingue.
Et là, du coup, vous regardez les boîtes de l'armement?
Non, mais moi, je regarde à titre personnel, je regarde évidemment aussi les énergies fossiles, parce que c'est totalement absurde, on en a parlé 100 fois de les éliminer, mais ça va être très amusant de voir, notamment dans les grandes gestions avec les
ça se voit déjà,
avec le RSE, dire déjà. Ah là là, on peut pas faire de défense, ouais, mais finalement ils vont être complètement à côté de la plaque,
Même les organismes internationaux, la BEI et tout ça, ils sont en train de regarder en fait. Hein.
Bah, ils ont pas le choix.
Non mais c'est dur de dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que... C'est une constatation, mais sauf que pour l'économie française, c'est une excellente nouvelle.
Je suis d'accord. Hein,
c'est-à-dire que, si vous voulez, entre une transition écologique dans laquelle on était à la ramasse et un réarmement dans lequel on a quand même tous les atouts pour y arriver. Il faut rappeler que la France, c'est quand même le deuxième pays vendeur d'armes au monde derrière les États-Unis, alors loin derrière les États-Unis, mais devant la Chine, devant la Russie. C'est une industrie dans laquelle... Enfin, je veux dire, c'est une industrie qui coche toutes les cases. Hein. C'est que vous avez des grandes entreprises qui sont les locomotives de 4000 PME. C'est déjà 12%
c'est ou un écosystème incroyable
de l'emploi industriel. Vous avez un secteur, il faut le rappeler parce que c'est une constante historique, le secteur de l'armement et de la défense, c'est un secteur qui, historiquement, entraîne le reste de l'économie et de l'industrie. C'est un des secteurs qui a les plus gros effets multiplicateurs sur le reste de l'économie, parce que on est en pleine révolution technologique
aussi.
Et qu'il y a énormément de recherche, d'innovation qui va être faite à vocation militaire et qui va ruisseler sur le reste de l'industrie. Vous le dites, c'est des emplois non délocalisables, c'est des emplois partout, sur tout le territoire, et en plus, c'est un élément majeur pour retrouver aussi de la souveraineté. Donc, vous regardez cette industrie de l'armement, pour la France, ça coche absolument toutes les cases. Il faut en profiter.
Avec la problématique que vous soulevez, qui est l'hypocrisie qu'il y a autour de cet investissement-là. C'est-à-dire qu'il va falloir twister les règles pour finalement continuer à investir dans un secteur qui ne coche par contre pas du tout les cases de l'investissement socialement responsable.
Est-ce que quand même on n'a pas, dans certains domaines importants de l'armement, décroché? Parce que quand on voit hier à Bergerac, c'est super de rouvrir à nouveau une usine de poudre, mais on produisait plus de poudre depuis 2007.
Non, je crois qu'il faut là il faut pas tomber dans la caricature. Je pense que Emmanuel l'a dit, c'est-à-dire que d'un côté il y a quand même un gagnant mais énorme. Moi, ce qui m'angoisse un peu dans tout ça, c'est le fossé incroyable qui est en train de se creuser entre les États-Unis et l'Europe.
Là aussi. Hein.
Non, mais franchement c'est stressant de voir ça parce que on voit sous nos yeux une sorte de faille s'ouvrir et qui est démentielle en termes de productivité, en termes de croissance. Et là, Emmanuel a raison, la France est bien placée, mais avait une échelle de 1 pour 10 ou 1 pour 20. Et c'est-à-dire que là, on a encore... C'est-à-dire que si Vladimir Poutine avait voulu faire un cadeau à l'économie américaine pour les 20 ans qui viennent, il n'aurait pas fait mieux. Hein.
Alors, on a quand même l'impression qu'on essaye de rattraper. Et d'ailleurs, quelque part...
Mais on est bien placé.
Merci,
on
merci
est bien
Donald
placé,
Trump,
Emmanuel a raison.
Que, merci Donald Trump, parce qu'il nous ramène quand même à la raison.
Merci Poutine, surtout. Ouais. Parce que c'est Poutine qui a finalement... Sans Poutine, on n'aurait pas eu sans la guerre en Ukraine.
On n'aurait pas eu besoin...
Imaginez l'Allemagne. L'Allemagne qui dit qu'on veut être les leaders du réarmement... Ouais. En Europe, l'Allemagne.
Non, mais c'est là où
il y a 5 ans, c'était inimaginable.
C'est là où on se rend compte que le balancier est sans doute allé trop loin et que l'Europe de la paix, ça a sans doute trop bien marché même. C'est-à-dire qu'en fait, on a bâti les 50 dernières années du 20e siècle avec cette idée que plus jamais il y aurait la guerre, etc. Et notre naïveté a été trop loin en matière de désarmement. Et là, pour le coup, c'est vrai que les Allemands... et on se dit, là, en fait... Effectivement, l'Europe en général a quand même des raisons de se dire que elle a sa place à prendre sur ces technologies-là, et en plus pour des raisons de souveraineté.
Est-ce que j'ai le droit encore de dire que la planète brûle et que tout ça nous amène au désastre écologique ?
Oui, je pense que c'est pas forcément évidemment hein, ce qu'on est en train d'annoncer. C'est un constat. Hein, il faut pas qu'on pense qu'on est en train de pousser au réarmement. C'est un constat. C'est pas une très bonne nouvelle pour la transition écologique. C'est pas une très bonne nouvelle pour les investissements dans la transition écologique parce que les États vont devoir faire des choix.
Bien sûr.
C'est-à-dire, on peut pas. Déjà, on voit la situation catastrophique dans laquelle on est. On peut pas à la fois financer le réarmement parce que c'est l'État qui finance. Personne d'autre va refinancer et à la fois financer autant la transition écologique. Donc, il va y avoir des arbitrages à faire. On les voit d'ailleurs hein, dans les baisses des dépenses publiques entre les différents ministères.
Oui, c'est vrai.
On voit que du côté de l'armement, pour l'instant, il y a la défense.
Il y a quand même une question qu'il faut se poser au final, c'est de quoi est-ce qu'on risque de mourir en premier, quoi.
C'est ça.
Hein, bah oui. Et vous pouvez après essayer de faire tout ce que vous voulez pour la transition écologique. Si nos vies, nos pays, nos économies ont été détruites par la guerre, voilà. Donc je pense que oui, il y a des priorités, mais parfois il y a des urgences qui chassent les priorités. Et le réarmement, c'est une urgence.
Et alors c'est très intéressant parce qu'on a toujours parlé pendant des années du dividende de la paix. Bah là, on va parler dans les années qui viennent du dividende de la guerre.
Toujours le sens de la formule, Marc. Hein. Bon, on va parler d'inflation, de taux d'intérêt. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui n'est pas un banquier central, mais qui pourrait presque l'être. Écoutez.
Policymakers must resist.
Les banquiers centraux doivent résister aux appels à abaisser trop tôt les taux d'intérêt. Mais attendre trop longtemps pourrait refroidir l'activité économique.
Vous avez compris quoi,
c'est vraiment la langue de bois. Si vous avez
c'est évidemment Kristalina Georgieva, hein, la directrice générale du FMI.
Langue de bois de Total, c'est si vous avez compris ce que j'ai
elle
dit, c'est que je me suis mal exprimé.
Même.
Bah, elle résume bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il faut pas aller trop tôt, il faut pas le faire trop tard. Bah, merci, je veux dire, c'est vraiment, et l'eau mouille, quoi. Donc, elle aurait pu rajouter ça. Non, on est dans une situation. D'abord, il faut évidemment faire ce que tout le monde fait, distinguer la situation américaine de la situation européenne. Et, heureusement, miracle, hein, j'ai envie de dire, moi qui ai tapé sur Christine Lagarde pour la première fois, elle a compris que, un, il fallait pas attendre que la Banque Centrale Américaine baisse les taux pour qu'on baisse les nôtres.
Je le dis, hein.
Bravo.
Bah oui,
alors,
c'est bien.
Non, mais, non.
Courageux.
C'est courageux, n'exagérons rien. elle a juste 6 mois de retard. Je vois pas où est le courage là-dedans. Donc, le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'elle a compris quand même que quoi qu'il se passe, il fallait baisser les taux d'intérêt. Par contre, la situation aux États-Unis n'a rien à voir. Et ça reboucle avec le sujet du réarmement. Ça reboucle avec le sujet de l'énergie. Parce que les États-Unis, en fait, Emmanuel parlait de cocher toutes les cases, mais les États-Unis cochent toutes les cases. Ils cochent la case de l'énergie, ils cochent la case du réarmement, ils cochent la case de la transition écologique avec l'IRA, ils cochent la case de la relocalisation et de la réindustrialisation. Le fossé, il est dramatique.
Mais alors, est-ce
c'est ce qu'on
a fait. Enfin,
on l'a déjà
la case de l'IRA
en disant, au final, c'est toujours les États-Unis qui gagnent.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les États-Unis, c'est l'éternel pays émergent.
Mais alors, est-ce que
c'est le pays qui a tout. Il a les capitaux, il a les ressources humaines, il a la démographie, il a l'énergie, il a tout ça.
Et il a l'IA.
Et est-ce qu'il a aussi l'inflation? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a de l'inflation aux États-Unis?
Non, mais alors oui, vous avez quand même des germes inflationnistes qui sont plus net et plus perceptible aux États-Unis. Vous avez des tensions sur les prix à la production, c'est indéniable. Vous avez
tensions sur les salaires.
Des tensions sur les salaires. Donc oui, effectivement, on comprend la prudence de la Réserve fédérale. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est la dernière fois avec Marc ici qu'on en a parlé, mais moi, je ne croyais pas du tout aux trois baisses de taux dans l'année. Et manifestement,
moi, j'y crois toujours.
Après,
j'y crois toujours.
Après, la Réserve fédérale.
Ouais, là où l'Europe, est quand même.
Bien sûr.
Alors pour le coup, je vais presque être plus sévère que Marc sur la Banque Centrale Européenne. C'est que vous voyez que quand vous vous engagez dans un mouvement avec le mauvais timing, c'est très compliqué de retrouver le tempo après. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence quand même à voir, depuis le début de l'année, les matières premières, il y a beaucoup de matières premières, il y a le pétrole, etc., qui remonte. Et d'ici à ce que la BCE nous dise, ah bah oui, mais alors attendez, là maintenant, finalement, il y a un peu plus d'inflation, c'est pas si sûr que ça qu'on baisse, etc., vu qu'ils ont accordé une importance disproportionnée à la hausse des matières premières dans les décisions d'augmenter les taux d'intérêt, moi je pense qu'ils auraient dû, alors ils auraient dû baisser depuis bien longtemps, et je regrette qu'il n'y ait pas eu de baisse.
6 à 9 mois
de déjà, en avril.
Je suis d'accord.
Parce que, effectivement, si ça se trouve, il y a une fenêtre là, en avril, qui s'était ouverte.
Ouais, c'est vrai.
Qui aurait permis un geste et qu'au mois de mai.
Il
ne
faudrait pas qu'au mois de mai, ils se disent, finalement,
je vais après, en Europe, à part l'inflation sur les matières premières, tous les autres signaux sont quand même très encourageants. Hein, sur les salaires.
Encourageants, ils sont dramatiques.
Non, mais je veux dire, en matière d'inflation. C'est-à-dire que sur les salaires, on voit que ça se calme, etc.
Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que, en fait, l'inflation qui résiste aux États-Unis, c'est un bon signe, hein.
Ouais.
C'est un très mauvais signe politique, parce que vous avez vu que, pour les préoccupations Biden, des électeurs.
Pour l'immobilier, notamment, les électeurs, ils ont envie de baisser.
Ils considèrent que c'est de la faute de Biden, et donc, ils sont très énervés. Mais c'est un signe, en fait, de bonne tenue de l'économie, et notamment de bonne tenue des salaires.
Alors, on va souffler, on allant aux États-Unis. Justement voir Antoine Delard pour voir les conséquences de ces indicateurs sur justement l'ambiance en pleine campagne électorale. Antoine Delard.
Oui, ces mauvais chiffres sont une très grosse épine dans le pied de Joe Biden pour deux raisons. D'abord parce que les prix qui restent élevés alimentent encore un peu plus le mécontentement des électeurs. Les équipes de Biden espéraient une amélioration sur le pouvoir d'achat dans la dernière ligne droite avant l'élection. Ce scénario désormais a du plomb dans l'aile. Et puis, ensuite, à cause de cette inflation collante, comme l'on dit, la Fed ne va pas baisser tout de suite ses taux. Pour les consommateurs, ça veut dire des crédits qui restent chers pour acheter des maisons, les crédits immobiliers ou pour acheter des voitures, par exemple. Là encore, une mauvaise nouvelle pour Joe Biden. Alors Donald Trump l'a bien compris, quand les chiffres sont sortis avant-hier, il a immédiatement réagi sur son réseau social en disant que Biden est le pire président de l'histoire. Joe Biden, de son côté, pointe du doigt les entreprises qui, selon lui, s'enrichissent sur le dos des consommateurs. Biden dit qu'elles doivent utiliser leurs profits pour baisser les prix. Un message qui, pour le moment, n'imprime pas vraiment auprès des électeurs. Pire, tout cela donne surtout l'impression d'un Joe Biden impuissant et déconnecté des Américains et de leurs problèmes du quotidien.
Ouais, c'est vrai que le boulevard s'agrandit pour Donald Trump aujourd'hui.
Alors ça, non. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ça, il faudra laisser Ben Aouda s'exprimer là-dessus parce que c'est le spécialiste. Non, ce qui est intéressant, c'est que les Américains reprochent à Biden l'inflation, mais l'inflation, elle vient en partie des matières premières et autres, mais elle vient en partie des salaires, qu'on est en plein emploi et que les augmentations de salaires sont largement supérieures. Quand on voit par exemple les chiffres en Californie, c'est assez spectaculaire. Ouais. C'est le plein emploi et les hausses de salaires sont encore de l'ordre de 6 à 8%.
Et alimentent l'inflation.
Ouais. Et alimentent largement l'inflation. Alors on n'en est pas à la spirale inflationniste et l'inflation de second tour, mais on est à une inflation par les salaires. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a un an.
D'ailleurs, c'est l'éternel débat en économie, c'est est-ce qu'il faut mieux plus de croissance et donc plus d'inflation ou un peu moins de croissance et une inflation maîtrisée.
Il faut surtout du pouvoir d'achat. Et là, effectivement, moi, je suis pas convaincu que ce soit. Enfin, je veux dire, quand on voit la situation du marché du travail, c'est quand même ça qui, sur le plan électoral,
et qui est excellente.
Oui, mais le marché immobilier, vous savez que les taux variables des crédits immobiliers font qu'ils sont très sensibles aussi au montant de la mensualité qu'ils remboursent.
Hein. Ouais, oui, alors, sauf que la valeur de votre patrimoine elle compte aussi.
Oui.
Et que là-dessus, encore une fois, le bilan Biden, il est pas mauvais. On peut pas dire qu'il a un mauvais bilan économique.
Ah non, d'un point de vue économique, on peut même dire qu'il a un très bon bilan.
Et après, alors on on peut s'attacher au fait que il a mis beaucoup d'argent public dans la machine, qu'il en a peut-être mis trop, etc. Mais ça, je suis pas sûr que les Américains soient sensibles à ce discours-là.
Allez, on vient un peu sur les chiffres de la semaine pour la France. C'est le niveau des déficits publics, hein, 5,1% du PIB. On a envoyé ça à Bruxelles.
Ouais. Bon, 5,1%, c'est une prévision. Hein. Ouais, c'est prévision basée sur des prévisions de croissance qui seront pas réalisées.
Ça sera plus alors ?
Bah, évidemment que ça.
Et du coup, est-ce que c'est la faute du ministre de l'économie ? Est-ce qu'il faut le changer ?
Mais je pense qu'il n'est plus là déjà, parce que vous avez quand même remarqué que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, se fait critiquer par Bruno Le Maire, candidat en 2027, que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, se fait critiquer par Emmanuel Macron, qui lui dit t'es là depuis 7 ans, sauf que Emmanuel Macron est là depuis 7 ans aussi, qui connaît un peu l'économie. On peut pas dire que ce soit un mec qui débarque dans le domaine de l'économie, il s'est vendu là-dessus. Donc on a aujourd'hui une vacance, enfin moi j'ai pas peur de le dire, hein. On a aujourd'hui une vacance, il n'y a pas de ministre de l'économie, et moi j'ai même, je vais faire un petit teasing avant de laisser parler Emmanuel, j'ai même une idée pour savoir qui va le remplacer.
Alors, bah dites-moi.
Ah ben non,
Emmanuel,
non.
Alors, est-ce qu'on a plus de ministre de l'économie ?
Mais le problème, c'est, pour poser la question différemment, c'est objectivement le diagnostic que pose Bruno Le Maire sur ce qu'il faudrait faire pour finalement redresser la France.
Parfait.
Il est parfait.
Mais il est aux commandes.
Sauf que, oui, non, il n'est pas aux commandes du tout, et c'est ça le problème. Donc la vraie question, c'est
Il est aux commandes depuis 7 ans.
Non, il n'est pas aux commandes du tout.
Qui est aux commandes alors?
Je veux dire, quand vous regardez le nombre.
Non, mais qui est responsable?
Mais quand on regarde le nombre de couleuvres que Emmanuel Macron a fait avaler à Bruno Le Maire.
Ah non, mais ça, c'est
mais
pour...
Mais bien sûr que
mais
si.
Non, mais non,
bien
7
sûr
ans.
Que oui.
Le gars est là depuis 7 ans. Tu nous refais le coup d'Angela Merkel.
Non. D'abord, on ne peut pas mettre les 7 ans sur le même plan.
Ah bon ?
Il y a une première partie...
Ah, il est ministre de l'économie, il a aucun pouvoir.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une première partie de premier quinquennat où là, ils sont totalement en phase, ils font les réformes, la fiscalité, etc. Et là, c'est avec les gilets jaunes que ça commence à vriller. Et après, avec la crise sanitaire. Et en fait, la réalité, c'est que Bruno Le Maire n'avait pas du tout les mêmes options et les mêmes...
Non, mais ça, c'est ce qu'il dit pour se défendre.
Mais non, c'est pas vrai, c'est
les faits. Tu es en train de reprendre ses arguments.
Mais Marc, nous, on regarde.
Tu reprends
on regarde
ses arguments.
Au quotidien.
C'est pas de ma faute. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas être ministre de l'économie.
Vraiment, regarde ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment.
Il n'est pas employé, fonctionnaire.
Mais bien sûr que si.
Ah oui.
Mais
d'accord.
Bien sûr que si.
Donc, il n'est pas responsable.
Mais il n'est pas responsable.
Le gars est là en place, il prend toutes les décisions, mais c'est pas de sa faute.
Il prend pas toutes les décisions. La réalité, c'est que tu as un président de la République qui impose tout à ses ministres.
Ça veut dire qu'entre fermer sa gueule et démissionner,
bah
il a
ouais,
décidé de
non,
mais
bien
la
bien
question,
sûr.
La question pour l'utilité, c'est quoi ? C'est de se dire, attendez, toutes les décisions qui sont des décisions qui ont dilaté...
Dans ce cas-là, il faut partir.
Ah bah à ce moment-là,
si on est obligé d'avaler des couleuvres et que tu dis qu'il n'a rien fait,
mais la
rien
question,
fait,
alors je te pose la question, alors tu me diras, ta réponse m'intéresse, quelle est en fait la seule personnalité, quelle est la personnalité qui pourrait...
Alors,
qui
pourrait, attendez, non, alors j'ai
qui
un
pourrait
scoop.
Faire changer
il
d'avis,
a le nom du ministre de l'économie.
Qui pourrait faire changer d'avis Emmanuel Macron et qui pourrait... infléchir les idées d'Emmanuel Macron. Moi, c'est
ça. Alors, il a ouvert.
J'ai la réponse. Vous savez qui j'ai posé la question ?
Non.
À Google Gemini, l'intelligence artificielle.
Marrant,
je lui ai dit, imaginez que vous êtes le conseil du gouvernement français, que vous devez lui donner 10 mesures prioritaires pour réduire le déficit public.
Ouais, mais ça,
il m'a sorti. Non, mais
ça, c'est dans le livre de Bruno Le Maire.
Non,
déjà,
non,
ça,
il m'a sorti.
Le nom,
10 mesures. Mais vraiment, c'est pas génial. C'est le propre de l'intelligence artificielle.
Marc, c'est
mais je sais qu'elle s'en connaît.
Bon,
ben
voilà.
Mais je
alors,
dis, voilà, le prochain ministre de l'économie. Ben, c'est, alors après, on n'a pas le temps de tout voir, mais c'est très détaillé. Parce que vous allez me dire, ah oui, c'est des généralités. Non. Révision des dépenses fiscales, il donne le détail. Lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, il donne les détails.
Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle.
D'accord, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, si elle était vraiment plus maligne que nous, elle nous dirait.
Elle est.
Qui, aujourd'hui, est capable d'imposer ce programme à Emmanuel Macron, qui est quand même celui
prochain ministre de l'économie, l'intelligence artificielle.
Mais non.
C'est évident. C'est évident. Il n'y a pas besoin de se poser la question.
Sauf si Emmanuel Macron se range à l'avis de l'intelligence artificielle. Mais le vrai sujet, c'est ça. Qui s'est opposé à toutes les aides qu'on a saupoudrées sur tous les Français ?
C'est incroyable que tu défendes Bruno Le Maire.
Parce que la réalité.
Tu cherches un job ou quoi ?
Je défends pas. Je défends les idées qu'il a eues et qui étaient les bonnes et que t'es les premiers à défendre.
Comment on peut
défendre ? Et après, il a avalé des couleuvres. Bah, parce qu'effectivement.
Alors quand c'est bien, c'est lui. Quand c'est mal, c'est qu'il a avalé des couleuvres.
Quand t'es ministre, effectivement, chevènement, tu fermes ta gueule ou tu démissionnes. Pendant longtemps, il a fermé sa gueule. Il avait choisi de fermer sa gueule.
Mais
il a avalé les couleuvres. Voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, non seulement... Alors, c'est là où Marc, t'as raison. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui...
Plus personne n'est responsable.
Aujourd'hui,
alors, qui dirige alors ?
Il ne la ferme plus. mais tout est fait. Enfin, Marc, tu peux pas connaître comme nous au quotidien tout ce qui se passe à l'Élysée, à Bercy, etc. Donc c'est bien les grandes généralités.
Je suis pas dans les arcanes du pouvoir comme toi.
Mais non, mais la réalité, c'est que le fonctionnement au quotidien, ça se passe comme ça. C'est
alors.
C'est, voilà, moi je veux bien encore une fois, mais trouvons quelqu'un qui va.
Je t'ai trouvé.
Mais non, tu l'as pas trouvé.
Google Gemini, j'ai trouvé quelqu'un.
C'est une arnaque.
J'ai trouvé Google Gemini.
J'ai une autre. C'est une arnaque.
Je peux parler. J'ai une autre idée. Pour miser l'économie. BFM Business, écoutez nos chiffres sur les podcasts, les records historiques à 2,2 millions. Attendez, parce qu'il y a le chiffre de c'est votre argent. 2,2 millions de podcasts, c'est un record historique pour BFM Business, 9e radio de France. Les records sur nos nouvelles émissions, Tout pour investir, plus 86%. BFM Bourse, qui a été complètement revampé, plus 99% sur un an. C'est votre argent.
Magnifique.
260 000
bravo.
Audience plus 29%. Bravo à tous.